France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un slogan et une histoire à dormir debout, la loi El Khomri. À l'époque, François Hollande est président de la République, Manuel Valls, Premier ministre, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Myriam El Khomri, la benjamine du gouvernement, ministre du Travail. La France se relève tout juste des attentats de novembre 2015, quand le gouvernement se lance dans l'une des dernières réformes du quinquennat de François Hollande, une loi travail, dite loi El Khomri, qui fracture la gauche et envoie des dizaines de milliers de Français dans les rues. Et certains y restent, oui, pour se lancer dans l'aventure Nuit Debout, un mouvement militant et citoyen, là où les luttes convergent face à la politique d'un pouvoir socialiste qui passe de la social-démocratie au social-libéralisme. Notre invité aujourd'hui, Pierre Jacquemin, journaliste, directeur de la rédaction de Politis et auteur du livre « Ils ont tué la gauche », publié en 2016 chez Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Voici 5 octobre 2015. Il y a comme un parfum de colère parmi les employés d'Air France et de grandes inquiétudes. L'entreprise a annoncé un plan d'économie qui prévoit la suppression d'au moins 2900 postes. Il faut dire que chez Air France, les plans se suivent et se ressemblent. Mais cette fois, les salariés sont plus que jamais déterminés à faire barrage. À 9h30, près de 3000 manifestants se dirigent vers le siège social. On y trouve des pilotes, des stewards, des hôtesses de l'air et du personnel au sol. Au même moment, la direction et les représentants syndicaux sont réunis en comité central d'entreprise. Face à la pression de la foule, les policiers laissent pénétrer les manifestants dans l'enceinte du bâtiment. Les salariés se dirigent alors vers la salle où a lieu la réunion. La DRH d'Air France reçoit un SMS de la sécurité qui lui dit « évacuer ». Alors le PDG d'Air France, Frédéric Gaget, est exfiltré en urgence. Et au loin, il entend le slogan « Démission, virons nos patrons, dégage !» Chose dite, chose faite, la plupart des membres de la direction sont mis à l'abri alors que la salle du comité est prise d'assaut par les salariés venus chercher des explications. Comme cette femme, filmée par le Parisien TV.
Nous on les a fait les efforts. Nous on a fait des efforts. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre. On n'est même pas nous-mêmes en considération. Oui, messieurs,
on est venus discuter, on voudrait avoir un dialogue cohérent.
C'est normal qu'on apprenne par voie de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter? Est-ce que c'est normal?
Mais ce n'est pas le discours de cette salariée que les médias vont mettre en avant. Non. Ce sont d'autres images qui vont faire le tour du monde. Celles filmées à l'extérieur. Quand deux cadres, dont le DRH, sont violemment pris à partie par quelques manifestants. C'est l'affaire des chemises arrachées, souvenez-vous. L'image de dirigeants d'entreprise, à moitié torse nu, obligés d'escalader un grillage pour quitter la foule des salariés en colère, évidemment ça marque. Immédiatement, les membres du gouvernement socialiste dénoncent ces actes de violence. Au ministère du Travail, Myriam El Khomri est en poste depuis un mois seulement. L'un de ses conseillers, Pierre Jacquemin, notre invité aujourd'hui, explique dans son livre « Ils ont tué la gauche » comment le Premier ministre Manuel Valls insiste pour que la jeune ministre condamne elle aussi ces violences. Dans une interview pour un quotidien national, Myriam El Khomri avait prévu de déclarer « Si je condamne les violences physiques, je vais aussi dénoncer celles des dirigeants d'entreprises qui menacent l'emploi en France ». Mais sous la pression de Matignon, cette phrase disparaît lors de la publication de l'article. Pour Pierre Jacquemin, c'est un premier renoncement pour cette ministre connue pour ses convictions de gauche. Il faut dire qu'elle doit sa nomination à Manuel Valls, qu'il avait assorti de la déclaration suivante « Il faut du renouvellement, il faut que de nouvelles générations et des femmes accèdent aux responsabilités ». Eh bien, une responsabilité, il va lui en faire porter une très lourde, celle d'une loi qu'il a décidée, un texte sur la flexibilité du travail, un concept plutôt libéral. Fin novembre 2015, Myriam El Khomri rassemble toute son équipe pour un séminaire. Au programme, team building avec karaoké et cours de déco-gastronomie. Ce moment est l'occasion pour les membres du cabinet de faire connaissance avec cette jeune ministre entrée en fonction quelques semaines auparavant. Et ça va être aussi l'occasion pour Myriam El Khomri de faire une annonce lors d'une réunion. Et là, Pierre Jacquemin, qui est chargé d'écrire les discours de ses interventions, est très surpris. D'abord, il n'a pas été prévenu, mais ce qui l'étonne encore plus, c'est ce que dit la ministre. Propos qu'il rapporte dans son livre « Ils ont tué la gauche, posture et imposteur au sommet de l'État », livre publié chez Fayard en août 2016.
Qu'avait-elle dit ? Ni plus ni moins que la gauche devait sortir des postures et de ses conservatismes. Que d'avoir fait du maintien des 35 heures du SMIC et du contrat de travail un préalable ne nous donnait plus aucune marge de discussion avec les partenaires sociaux. Et qu'il fallait que la loi soit l'occasion, au contraire, de tout remettre à plat. Est-ce que c'était une provocation, un test, une manière de lancer le débat entre nous ? J'avoue avoir été séché. Je reconnaissais pas la ministre. Ça sentait la récitation d'éléments de langage. Malaise dans la salle.
Pierre Jacquemin pose alors une question à la ministre. Myriam, tu as conscience qu'en nous disant cela, en remettant en cause les 35 heures, le contrat de travail, etc., tu n'auras pas de majorité au Parlement ? Est-ce que ça signifie que tu es prête à aller jusqu'au 49-3 ? La ministre lance alors à tous les membres de son cabinet « Je ne l'exclus pas ». Stupeur générale. Le 31 décembre 2015, c'est l'heure des vœux de François Hollande. Le président de la République rappelle tous les attentats qui ont émaillé l'année. Charlie Hebdo, Saint-Quentin Favalier, Thalys, attentat du 13 novembre, bien sûr. Il explique que la menace est toujours là et que la France frappe en Syrie et en Irak contre Daesh. Il annonce enfin qu'il va continuer les réformes, notamment avec une loi travail.
S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique.
17 février 2016, les Échos dévoilent en exclusivité les contours de la loi El Khomri. Elle prévoit notamment un plafonnement des indemnités prud'homales, un assouplissement des règles concernant les licenciements économiques, une modulation du temps de travail selon les secteurs d'activité, mais également un renversement de la hiérarchie des normes avec l'accord d'entreprise qui primera sur l'accord de branche. Enfin, un référendum d'entreprise pourra être organisé. Un vrai chamboulement du code du travail, mais assez difficile à comprendre. Le lendemain, France Inter évoque ce projet dans le journal.
France Inter. Ce sera l'une des dernières grandes réformes du quinquennat Hollande. Réforme dans laquelle l'actuel président affirme plus que jamais ses options social-démocrates, certains diront social-libérales. Le patronat parle d'un projet qui va dans le bon sens. Écoutez Pierre Gattaz, le patron du MEDEF.
L'idée, c'est de débloquer le marché du travail. Et il faut baisser la double peur, celle des patrons d'embaucher et celle des salariés de se faire licencier. Aujourd'hui, tout est verrouillé à cause de ça.
Le patronat se félicite, les syndicats s'offusquent. CGT et FO en tête sont vent debout contre cette réforme. Seule la CFDT est prête à négocier le texte. Cette loi est portée par un trio, Manuel Valls, Emmanuel Macron et Myriam El Khomri. Ils le martèlent dans les médias et à l'Assemblée nationale, ce texte est fait pour combattre le chômage et pour le bien des salariés. Tout sauf une loi scélérate, ou de droite, ça rime parfois. Myriam El Khomri, qui n'a pas écrit ce projet de loi, est réduite au service après-vente. Et elle sait très bien qu'il va falloir un long combat pour convaincre une partie de l'opinion publique et les partenaires sociaux.
Il n'y a pas de recul des droits. Il y a, en effet, un changement d'ampleur qui est de renforcer les capacités d'adaptation au plus près au niveau de l'entreprise.
Va-t-elle réussir à convaincre les Français ? Au même moment, une pétition en ligne est lancée par la militante Caroline de Haas. Elle est intitulée « Loi travail, non merci ». On peut y lire « Salariés ou non, cette réforme nous concerne toutes et tous ». à interpeller la ministre du Travail et demander-lui de renoncer à ce projet. Le 4 mars, deux semaines après sa mise en ligne, la pétition dépasse le million de signatures et bat ainsi tous les records. Mars 2016, Paris, place de la République. Les manifestants se massent pour dénoncer cette nouvelle loi. Ils sont salariés, chômeurs, étudiants. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, 100 000 selon les syndicats. Un seul mot d'ordre ce jour-là, retrait du projet. Ils craignent une précarisation du marché de l'emploi. Des lycées et des universités sont également bloqués. Jean-Claude Mailly, de Force Ouvrière, déclare que cette première journée de mobilisation est réussie et même plus forte que les premières journées du CPE, 10 ans auparavant. Philippe Martinez, de la CGT, prévient « Si le projet départirait, il y aura poursuite et intensification de la mobilisation. » Une manifestante en colère déclare « Ils nous enfument, ils nous mentent et en plus ils nous insultent en disant qu'on n'a rien compris. » Gérard Filoche, de la gauche démocratique et sociale, genre socialiste du siècle dernier, lui aussi est très remonté. Et il fait part de sa colère au micro de BFM.
C'est une vraie trahison d'un siècle de droit du travail. Les gens ne se rendent pas encore compte. Vous savez, le code du travail, c'est un code qui protège les humains face à l'entreprise. Et là, maintenant, on veut soumettre les humains aux entreprises. C'est ça, en ça que c'est une contre-révolution conceptuelle, juridique, historique, théorique et pratique. Et oui. Moi, je voudrais que ce Premier ministre, il ait travaillé une fois dans sa vie, qu'il passe une serpillière dans une cantine de sa circonscription, qu'il passe 6 mois dans un chantier, et puis qu'il fasse comme 18 millions de salariés du privé et 5 millions du public, qui bossent. Parce que s'il avait bossé dans sa vie, il ne serait même pas capable de passer cette loi honteuse. C'est ignominieux, il a un ton prétentieux. Il donne des leçons à la France entière, soi-disant pour ne pas être immobile, alors qu'il nous fait revenir au 19e siècle. C'est ça, Manuel Valls. C'est une contradiction, une erreur de casting.
Mars 2016. Face à la contestation des manifestants et des partenaires sociaux, Manuel Valls revoit sa copie et présente une nouvelle version du texte. En conférence de presse, il déclare « Dialoguer dans une démocratie, ce n'est ni reculer, ni s'arc-bouter, c'est construire. Et construire, c'est possible, ensemble. Les Français ont exprimé des inquiétudes, mais les Français veulent des réformes. Nous avons donc modifié le texte initial et nous l'avons amélioré. Aujourd'hui, il prend un nouveau départ. » Laurent Berger de la CFDT se félicite de la réécriture du texte. La ligne réformiste a remporté une bataille.
La loi travail, t'es foutu ! La jeunesse est dans la rue !
Tous ensemble, grève générale !
Et on fera jamais
de la chair à patron !
31 mars 2016, la mobilisation est forte malgré la pluie. Les parapluies et les slogans sont sortis, le temps est pourri, le gouvernement aussi, peut-on lire sur les calicots. François Hollande n'avait n'a-t-il pas dit gouverner, c'est pleuvoir ? Et ce jour-là n'est pas très propice à l'humour. Non, la colère et l'inquiétude sont grandes. Un manifestant explique. Les pseudo-modifications qu'il y a eu il y a 2 semaines, ça ne sert à rien. Donc là, il faut changer profondément. Et sur toutes les lèvres, cette même rengaine, non à la précarisation. Sur les pancartes, on peut lire « Contre la loi travail, riposte sociale ». Ou encore « Ta réforme, c'est des conneries ». Ou, dans un autre genre, qui ne manque pas d'un certain réalisme, la nuit s'est faite pour baiser, pas pour travailler. Certains députés socialistes, des frondeurs, font partie du cortège. Mais il y a surtout les 3 M, Martinez de la CGT, Mailly de Force Ouvrière et Mélenchon du Parti de Gauche, qui s'expriment au micro de France 2.
On espère que le gouvernement a pris la mesure du mécontentement. Il y avait les sondages, aujourd'hui il y a la rue, il y a les entreprises, dont nombreuses sont en grève.
Alors où le gouvernement comprend et dit, ben écoutez, ok, allez, on rediscute de tout, auquel cas, ben, c'est très bien, ou il ne comprend pas, ben, la mobilisation va continuer.
Un projet de loi dont le temps est compté, selon Jean-Luc Mélenchon.
À François Hollande, à Manuel Valls, qu'est-ce que vous leur dites ?
Si vous ne la retirez pas tout de suite, vous la retirerez dans 15 jours. Et en toute hypothèse, si vous ne la retirez pas, c'est vous qui serez retiré en 2017.
Cette journée de manifestation partout en France mobilise fortement. Selon les statistiques exaspérantes et malheureusement systématiques, on dit 1 million de personnes dans la rue selon les syndicats, 400 000 selon la police. Entre ces deux menteurs, on ne connaît jamais la vérité. Mais ce qui change ce jour-là, c'est que tout le monde ne rentre pas chez soi. Ce 31 mars signe ainsi le début du mouvement Nuit Debout, qui ne porte pas encore ce nom. En réalité, c'est à l'initiative du journaliste et documentariste François Ruffin, rédacteur en chef de Fakir, que ce soir-là, des manifestants se rassemblent place de la République, à Paris. Et Ruffin est une sorte de modèle pour eux depuis qu'il a réalisé son documentaire intitulé « Merci patron », une comédie sociale où d'anciens salariés licenciés par Bernard Arnault se lancent dans une opération de représailles.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous.
Le lendemain, les protestataires décident de revenir place de la République pour se rassembler et échanger. Des mouvements comme celui-ci, il y en a eu en Espagne avec le mouvement des indignés en 2011 et aux États-Unis avec Occupy. Ici en France, il va prendre le nom donc de Nuit debout. Un nom validé par la sociologue Monique Pinson-Charlot, autrice de livres sur les ultra-riches. Elle prend la parole le samedi 9 avril. Face à la foule, elle explique que les puissants veulent voir le peuple soumis, à genoux. Il faut rester debout, dit-elle. François Ruffin, qui arbore son t-shirt ironique Love Bernard, tient le parapluie de Monique, car évidemment, il pleut, nous sommes à Paris. Et Monique Pinson-Charlot poursuit en évoquant la phrase du milliardaire Warren Buffett, qui en 2006 disait « Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais ma classe, la classe des riches, qui l'amène, et nous sommes en train de la gagner. » Les années qui suivront lui donneront encore plus raison. La sociologue appelle alors à coordonner toutes les révoltes et les luttes pour notamment se battre contre la fraude fiscale des plus riches qui prive l'État de 80 milliards d'euros chaque année, autrement dit l'équivalent du déficit public, une sorte de crime social. Dans le documentaire de Mariana Otero, intitulé « L'Assemblée », un homme s'exprime devant tous les deboutistes.
Il faut que la place de la République serve à faire cette convergence, que ce soit un quartier général qui permette d'occuper les entreprises, d'occuper notre place au niveau de la région parisienne. Et oui, il n'y aura pas de recette miracle, mais il n'y aura pas d'esquive. La grève générale, elle est nécessaire et indispensable. La grève reconductible, elle est nécessaire et indispensable.
Ce 9 avril, ou plutôt 40 mars, selon le calendrier des manifestants, une vraie énergie traverse la place de la République. Les Nuits debout ont maintenant une assise. L'économiste Frédéric Lordon harangue la foule. Enfin, quelque chose se passe. Quelque chose, mais quoi? Comment un mouvement sans direction se donne-t-il une direction? Comment un mouvement sans instance dirigeante se détermine-t-il à prendre une voie ou une autre? Il est certain, en tout cas, qu'il doit en trouver une. Un mouvement qui ne se donne pas l'objectif politique s'éteindra rapidement, soit parce qu'il aurait épuisé la joie d'être ensemble, soit parce qu'il sera recouvert à nouveau par le jeu électoral. Comment échapper à cette fatalité, conclut l'économiste. Car la question est bien là. Qu'adviendra-t-il de la loi travail et de Nuit debout ?
Le cœur à la bougie et le ciel.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le mouvement Nuit Debout contre la loi El Khomri.
Affaires Sensibles.
Nuit Debout en avant. Nuit Debout en avant.
Ce soir, on a un thème, c'est comment faire tomber la loi El Khomri.
Sur France Inter.
Et je trouve que c'est formidable que là, il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire.
Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils peignent ensemble.
C'est vrai.
Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Il n'y a que des gens comme toi et moi, en fait.
Jamais de nos vies, on a pu se retrouver comme ça, ensemble, librement, sur nos places, à se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là.
Debout et vigilant, c'est maintenant.
Les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ça se passe dans toutes les nuits debout en France. Il y a plein de villes qui sont concernées par le truc. Il n'y a pas que à Paris. Si tu habites à Nantes, si tu habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Donc viens, va à tes nuits debout.
Dans cette vidéo intitulée « Nuit debout, il se passe un truc nouveau en France », publiée sur la chaîne YouTube d'Osons Causer, on invite tous les Français à rejoindre le mouvement sur les places de tous les pays et de tout le pays. Chaque jour, des bâches sont installées pour constituer des abris. Et c'est un foisonnement de réunions, de modérateurs et d'idées. Quelque chose de rafraîchissant dans un monde qui semble avoir perdu le goût de l'action collective au profit du moi-je et même de la démocratie du moi-je. Des gestes sont mis en place pour que tout le monde puisse s'exprimer en silence. Oui, des gestes. On remue les mains pour dire qu'on est d'accord. On croise les bras pour manifester son désaccord, entre autres. Il y a aussi la commission grève générale qui tente d'organiser la convergence des luttes avec les travailleurs, la commission réfugiés qui, elle, fait un appel aux dons matériels et cherche des professeurs de français. Il y a aussi la commission démocratie, la commission transparence et la commission climat qui rédige un manifeste avec des propositions telles que l'arrêt définitif de l'exploitation des combustions fossiles, arrêt définitif des projets de nouvelles centrales nucléaires, 100% d'énergie renouvelable, relocalisation des productions d'énergie ou encore stop au traité de libre-échange TAFTA. La contestation dépasse donc le champ de la lutte sociale. Elle est aussi sociétale. Et ce syncrétisme est une vraie expérience de démocratie directe, avec comme mot d'ordre, contre les partis politiques, les chefs et les représentations en tout genre. La parole au peuple, à mi-chemin entre le rêve du grand soir et la révolution pacifique.
Bonjour mes chers collègues, la séance est ouverte.
Et arrive le 3 mai 2016, jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale sur la loi travail. À cette occasion, le président Hollande déclare « C'est un compromis dynamique et juste. C'est un texte de progrès. Pour les entreprises, il va procurer visibilité et adaptation. Elles en ont besoin, et notamment pour embaucher. Pour les salariés, ils vont pouvoir disposer, à travers leurs organisations syndicales, d'une capacité accrue d'agir dans le cadre de la négociation collective. » Le lendemain, Guillaume Meurice et sa bande reçoivent François Ruffin dans leur émission sur France Inter. C'est l'occasion pour l'humoriste de montrer la réaction qu'il a recueillie auprès de Thierry Mariani, homme de droite et plus si affinité. On le questionne sur le mouvement Nuit Debout.
Je vous tiens, François Ruffin, sale vermine bolchevique. On l'a peut-être oublié, mais Nuit Debout, c'est votre faute à la base. C'est votre idée de squatter la place de la République après la première manif contre la loi El Khomri. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Réunir des gens pour parler pendant des heures, réfléchir à leur avenir, parler démocratie, et tout ça gratuitement. Mais vous êtes stupide, on paye des gens pour ça, putain ! Ça s'appelle les parlementaires. Alors là, on n'a pas le temps, nous, hein, donc on va avancer avec Thierry Mariani. Et lui, Nuit Debout, ça l'a amusé un petit peu au début, et puis après,
comme toujours, il y a un certain nombre de gens dangereux, ultra-violents, qui se grèvent dessus. Et ça, c'est pas admissible.
Alors là, vous parlez des policiers ?
Non, je parle de l'extrême gauche qui se grèvent dessus et pas du tout les policiers. Je pense que les policiers font leur travail. Et quand on voit le nombre de blessés qu'ils ont, on comprend que c'est un travail dangereux.
Ah oui, mais de l'autre côté aussi, il y a des blessés, c'est pour ça ?
Oui, mais enfin, de l'autre côté, ils cherchent.
Oui, oui, c'est vrai, c'est très net hein, sur les images. Quand les CRS veulent frapper le sol avec leur matraque, t'as toujours un gauchiste menotté pour mettre sa tête vide entre les deux.
10 mai, Assemblée nationale. Le Premier ministre Manuel Valls, qui ne dispose pas de majorité à cause des députés socialistes frondeurs, décide donc de passer en force avec le fameux 49-3, en écho à ce qu'avait dit Myriam El Khomri à ses équipes. Souvenez-vous, je n'exclus pas d'avoir recours au 49-3. En réalité, ce n'est pas une surprise. Le gouvernement avait déjà utilisé cette disposition brutale à 3 reprises en 2015 pour faire passer la loi Macron. Alors les militants de Nuit Debout délocalisent leur assemblée générale devant le palais Bourbon. Et ici, une jeune femme prend la parole.
Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Vous savez pourquoi je suis dégoûtée? Parce que si on est là et qu'on nous laisse faire cet AG ici, c'est quelque part parce qu'on dérange pas en fait, parce qu'ils ont passé ce putain de 49-3 de merde. On est plus de 1000 devant l'Assemblée nationale, putain, à faire une AG populaire citoyenne. La vraie démocratie, c'est nous et il n'y a personne qui en parle. Vous vous rendez compte à quel point le peuple est endormi? Vous vous rendez compte de ça? C'est ouf, c'est... Moi, j'en peux plus d'être là comme ça et qu'on se sente tous impuissants.
C'est le ras-le-bol dans la rue, mais aussi chez une grande partie de la gauche française. Parce qu'un gouvernement de gauche qui fait passer une réforme libérale, ça s'est déjà vu. Mais des députés socialistes qui déposent une motion de censure pour faire tomber un gouvernement socialiste, ça c'est inédit. C'est pourtant une réalité au lendemain du 49-3, le 11 mai. Mais les frondeurs n'obtiennent que 56 signatures sur les 58 nécessaires, donc la motion échoue. Parmi les signataires, on retrouve Cécile Duflot, Rémi Philippe Petit, Benoît Hamon, Thomas Thévenoud, Noël Mamère. Heureusement pour Manuel Valls et ses ministres, Martine Aubry et ses proches, eux, ont choisi de rester fidèles. Le 12 mai, après la tentative de la gauche, voici la motion de censure déposée par la droite. Mais les frondeurs ne sont pas prêts à voter avec l'opposition, il y a des limites, tout de même. Ce qui n'empêche pas Éric Ciotti de les appeler à voter la motion. Jean-Luc Mélenchon va dans le même sens et déclare « Prenez vos responsabilités, bloquez la loi travail ». Ciotti-Mélenchon, même combat. Bah oui, que de pain béni pour la droite, qui se délecte de toutes ses divisions à gauche. Mais la motion est rejetée, la loi travail poursuit sa route, le gouvernement est déterminé. Mais les manifestants et les grévistes aussi. « 23 mai, Seine-et-Marne, raffinerie de Grandpuy. Le mot d'ordre est clair, rien ne doit entrer ou sortir. Les grévistes ont bloqué à la fois les routes, les chemins de fer et les pipelines. Mais ils ont décidé d'aller plus loin en bloquant la production. L'un des salariés en grève l'explique au micro de France Inter.
« On a la chance d'avoir un peu de pouvoir sur ce gouvernement qui fait la sourde oreille. Donc voilà, on est parti, nous franchement on lâchera rien. Le fait de bloquer les sorties de produits, c'est surtout pour bloquer l'économie et c'est ce qui fera reculer le gouvernement. Aujourd'hui ils se foutent un petit peu de nous, bon on va leur montrer qu'on n'est pas d'accord et puis je pense qu'ils ont intérêt à reculer, vraiment. »
Jour après jour, des stations-service commencent à être à sec dans tout le pays. C'est dans ce contexte de blocage que la ministre Myriam El Khomri est invitée le 26 mai sur le plateau de l'émission C'est à vous. Le sous-titre de l'émission, c'est « La ministre au cœur de la crise ». C'est le moins qu'on puisse dire. Et en sous-titre, El Khomri se défend. Disons qu'elle est bien obligée de le faire. Anne-Sophie Lapix, qui l'interviewe, ne passe pas par quatre chemins pour entamer la discussion.
Bonsoir Myriam El Khomri.
Bonsoir.
Vous allez bien? Vous avez le moral?
Je vais bien, bien sûr.
Eh ben, vous avez vraiment le moral alors, parce que vous êtes devenu de la chair à canon, lit-on dans la tribune de Genève, pour une loi que vous n'avez pas imaginée, pas écrite. Elle a été imaginée par Manuel Valls, par Emmanuel Macron, par François Hollande. Est-ce que vous vous êtes pas fait avoir?
Non, parce que c'est faux.
C'est faux? Ce ne sont pas eux qui l'ont imaginée avant même que...
Non, cette loi est fait suite à un rapport qui était porté par Jean-Denis Combrexel, qui a été demandé par le Premier ministre au printemps dernier. Mm-hmm. Et suite à ce rapport, moi, j'ai concerté les organisations syndicales et les organisations patronales, notamment sur la place qu'on voulait laisser à la négociation dans l'entreprise.
Et Anne-Sophie Lapix continue avec des questions telles que « Elle vous ressemble, cette loi ?» ou encore « Vous savez, il y a deux façons d'arrêter la violence et les blocages, soit par la force ou par le retrait de la loi. Quelle est votre préférence ?» Myriam El Khomri défend tant bien que mal cette loi, rejetée par une majorité de Français et de députés. À la fin de l'interview, des bruits de fond émergent sur le plateau de C'est à vous. Ce sont des manifestants contre la loi travail qui ont réussi à s'infiltrer jusqu'aux fenêtres du plateau. Ils tapent sur les vitres. Petit moment de flottement dans cette émission diffusée en direct.
J'ai l'impression que vous avez un comité d'accueil, effectivement.
Bonjour.
Ils sont... Bon, écoutez, voilà... On va espérer que cette émission va se poursuivre dans le calme. Merci en tout cas d'être venu nous voir.
L'antenne est interrompue quelques instants et la ministre est exfiltrée. La rue et les manifestants sont excédés par ce gouvernement qui veut passer en force. Certains d'entre eux adoptent la stratégie du Black Bloc pendant les manifestations. Ils rejettent les syndicats et optent pour la dégradation de biens symboles du capitalisme. Banques, assurances, McDonald's, Starbucks. Anticapitalistes, antifascistes, souvent habillés en noir, ces membres sont amenés à en découdre avec les forces de l'ordre.
Anticapitalistes, anticapitalistes, anticapitalistes.
Toutes ces violences, réelles, vont être reprises dans les médias. Pas forcément dans l'intention de discréditer le mouvement de protestation contre la loi travail, mais le résultat est le même. On reverra ça dans d'autres luttes sociales, contre la réforme des retraites notamment. C'est toujours la même mécanique. Le 14 juin, certains manifestants vont être filmés en train de jeter des projectiles à côté de l'hôpital pour enfants Necker, à Paris. Les médias s'en font l'écho, c'est leur rôle. Mais l'effet dans l'opinion publique est désastreux. En réalité, il s'agissait d'un point de fixation et d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Mais pour le gouvernement, c'est une nouvelle opportunité de jeter le discrédit sur les opposants à la loi travail. Le 5 juillet, le Premier ministre Manuel Valls se présente une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale pour faire passer en force la loi El Khomri.
Il a tranché et n'a pas fait durer le suspense.
En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote.
Sur les bancs de la gauche, les députés accusent le coup. Une fois encore, la loi travail ne sera pas discutée dans l'hémicycle. La droite s'en prend, Manuel Valls se lève et quitte les bancs.
Le débat verrouillé, le bazar dans la rue, écoutez, c'est une mascarade. Et maintenant, rendez-vous dans 9 mois devant les électeurs.
Malgré le 49-3, des manifestants et des délégués syndicaux espèrent toujours un possible retrait de la loi, comme cela avait été le cas avec le CPE. Mais Manuel Valls dégaine une troisième fois le 49-3 à la fin du mois de juillet. Et Goguenard, la droite, regarde la gauche exploser, ainsi qu'un ministre qui a joué un rôle actif dans la loi El Khomri, qui se prépare à tondre la laine sur le dos de François Hollande et à se déclarer candidat un peu plus tard, Emmanuel Macron. Le mouvement Nuit Debout s'éteint, laissant à la fois un sentiment d'amertume et un petit espoir pour de futures luttes citoyennes. La suite, on la connaît. Manuel Valls s'est battu par Benoît Hamon lors de la primaire socialiste. Ce dernier recueille 6,36% des voix à l'élection présidentielle de 2017, le score le plus faible de l'histoire du Parti socialiste. Myriam El Khomri, elle, est battue lors des législatives dans la 18e circonscription de Paris. Les socialistes perdent 286 sièges. Et Emmanuel Macron, l'un des porteurs de la loi travail, arrive au pouvoir. 10 ans ferme. Aujourd'hui, la loi El Khomri. Notre invité, Pierre Jacquemin. Bonjour.
Bonjour.
Donc, journaliste, directeur de la rédaction de Politis et auteur de « Ils ont tué la gauche », livre publié en 2016 chez Fayard. Alors, au cœur de cette histoire, il y a une thématique. Il faut remonter un petit peu quelques années. Finalement, on s'aperçoit que nos dirigeants politiques, notamment nos présidents et leurs gouvernements, font, depuis le deuxième mandat de François Mitterrand, des politiques qui ne sont pas dans la ligne droite de leur logiciel politique. Celui qu'ils ont présenté aux électeurs, c'est un contrat quand même. Et on voit Jacques Chirac qui est traité de radical socialiste, par exemple. Nicolas Sarkozy qui ne s'attaque pas aux 35 heures. François Hollande qui fait une loi d'inspiration libérale. Cette perte de repères, est-ce que vous pensez que ça explique en partie la montée des partis populistes, par exemple, et la crise politique qu'on vit ?
Je pense qu'effectivement, le fait que les personnalités, les présidents élus ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris devant les électeurs a forcément une répercussion et des conséquences sur le sentiment qu'ont les Français vis-à-vis de la politique et ce qu'elle ne fait pas en matière de changement de leur vie et des promesses qui ont été tenues pendant les campagnes électorales.
Mais au-delà de ne pas respecter les promesses, hein, c'est vieux comme le monde, mais d'aller à l'encontre même de la politique qui est proposée.
Je ne sais pas si ça va à l'encontre, et vous avez raison sur ce que vous avez cité, ce sont des exemples tout à fait justes. J'ai le sentiment que ceux qui ont le plus déçu dans l'exercice du pouvoir, ça reste quand même la gauche. L'exercice par François Mitterrand, encore qu'il y a eu la
parenthèse... Parce qu'on est toujours plus exigeante avec la gauche.
Oui, mais toujours. Le fait est que la gauche, quand récemment elle prend le pouvoir, et notamment sous François Hollande, elle déçoit parce qu'elle ne conduit pas des politiques de gauche. Emmanuel Macron, quand il prend le pouvoir, il a une promesse, c'est le en même temps, il veut faire et de gauche et de droite, et au final, on s'aperçoit qu'il aura fait que de la droite et donné des gages à l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment de dépossession, il y a ce sentiment de trahison politique et de manque de loyauté des politiques vis-à-vis de leurs électeurs. Mais il y a une chose qu'il faut avoir en tête, je pense, en tout cas c'est ce que j'explique dans le livre que vous avez bien voulu citer, et je vous en remercie. J'ai fait l'expérience de trois expériences professionnelles, c'était à l'Hôtel de Ville de Paris, ça a été à Radio France d'ailleurs, et ça a été dans le ministère du Travail. Et dans ces trois expériences, j'ai fait le malheureux constat de l'extrême présence et l'extrême pouvoir qui a pris la haute fonction publique, l'administration, la technocratie dans les décisions politiques. Et c'est ça qui freine aussi, je pense, le changement quand on prend le pouvoir. Je pense qu'il y a une bascule qui s'opère quand on est un jeune politique, on prend le pouvoir dans une mairie, et on a plus forte raison au sommet d'État comme Myriam El Khomri, qui n'a pas beaucoup d'expérience politique et qui se fait complètement avoir par une machine administrative, des hauts fonctionnaires qui croient avoir raison surtout parce qu'ils ont l'expertise et qui finissent par convaincre les politiques, des politiques qu'il faut mener, qui ne sont pas celles qu'ils avaient promis qu'ils mettraient en place s'ils arrivaient au pouvoir.
Peut-être qu'on n'est pas assez attentif. Souvenez-vous de ce que déclarait Emmanuel Macron quand il était ministre des Finances, de l'économie. Il disait devant les patrons, 2 ans avant l'élection, hein, au moins, les 35 heures, c'est pas un dogme. Ça nous mettait la puce à l'oreille, quand même.
Oui, oui, c'est sûr.
Mais il y a peut-être aussi un manque d'attention, de décodage, de décryptage.
D'abord, c'est de moins en moins, j'ai le sentiment, y compris notamment les deux dernières élections présidentielles, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une campagne sur du contenu. La campagne d'Emmanuel Macron, au final, lui-même n'a pas fait campagne, il n'a pas fait... on ne peut pas dire qu'il est... D'ailleurs, il n'a pas participé au débat télévisé, je me souviens. Mais surtout, il y a un manque de transparence, justement, sur la réalité de la fonction politique et je pense que c'est là où les hommes et les femmes politiques manquent de courage. C'est ça qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il y a des dogmes. On nous explique depuis des décennies qu'on est dans une crise permanente, qu'il n'y a plus d'argent, que les caisses sont vides. Mais ce que les hommes et les femmes politiques sont censés faire quand on fait de la politique, c'est rêver. C'est donner un peu d'espoir aux gens. Les gens, ils ont envie que les politiques les représentent pour changer leur quotidien, pour l'améliorer, pas pour contraindre leur quotidien. Le débat qu'on a en ce moment sur la réforme des retraites, par exemple, qui est permanent depuis des décennies, qu'est-ce que vous interrogez les Français ? Tous les Français disent évidemment qu'on n'a pas envie de travailler jusqu'à 70, 15, 75, 80 pour finir nos fins de mois. Donc, il faut trouver les moyens pour qu'on finisse bien dans notre vie, qu'on puisse passer la main, qu'on puisse s'occuper de nos petits-enfants. Je veux dire, c'est aux politiques d'inventer des systèmes qui permettent de réaliser... Je dis des rêves parce que je pense que la politique, ça reste une affaire d'utopie. Il faut avoir des caps. C'est ça qui a perdu la politique. Je pense que la politique a oublié de rêver. Les hommes et les femmes politiques ont oublié de penser un projet. Vous avez à chaque fois, aux élections présidentielles, municipales, des programmes. C'est très bien. On est tous contents de voir qu'on va peut-être avoir du bio dans les cantines et c'est super. Mais je pense que ce que les gens ont envie, et encore plus aujourd'hui, où on est dans un monde quand même très fragilisé, très instable, très incertain, on a envie de savoir vers où on va. Est-ce que c'est l'individu qui va guider les choix ? Est-ce que c'est le collectif ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut être solidaire ? Pas solidaire ? Est-ce qu'on veut être refermé chez les anciens ? Je veux dire, c'est ça qui manque dans le discours politique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils renoncent à leurs promesses, parce que tant qu'il n'y a pas un cap cohérent qui est établi, une doctrine, j'ai envie de dire doctrine, c'est un mot qui n'est pas très heureux comme ça, mais une philosophie, je veux dire, on a le monde qui s'effondre, on a l'écologie qui est mal, dont on parle très très mal. Ce que je veux dire, c'est le discours politique qui est problématique aujourd'hui. Ils ont bien de nous faire rêver, les politiques. Mais ils peuvent nous faire rêver.
Ça concerne la droite et la gauche, hein, oui. Tous les politiques. Oui. Mais concernant la gauche, est-ce que la gauche aurait abandonné ou négligé la question sociale au profit de la question sociétale, qui coûte moins cher, qui est plus facile ? La vocation de la gauche, c'est le social.
C'est tout à fait juste, et je vais même plus loin, c'est sans doute la lutte des classes, l'origine de la gauche, le collectif, les rapports de force, les rapports de domination, ce qu'on ne veut pas voir, mais les rapports de domination, ils sont partout, ils sont dans le monde du travail, ils sont dans la société, ils sont dans la manière dont on appréhende et dont on n'accueille pas les étrangers, ils sont dans la manière dont les femmes aujourd'hui sont traitées dans la société, ils sont dans la manière dont les trans aujourd'hui sont maltraités dans la société. Je veux dire, les combats, ils sont partout, les rapports de domination, ils sont partout, et donc du coup il faut pas, enfin, sans doute le monde du travail est important et il reste important à gauche, et je vois bien qu'à gauche aujourd'hui c'est un sujet de clivage. Est-ce qu'il faut s'occuper d'abord du monde du travail avant de s'occuper des problèmes migratoires, des problèmes de discrimination, des problèmes de LGBT, etc., que la gauche évidemment a pris à sa charge, et c'est bien qu'elle l'ait pris à sa charge, et je pense que les luttes ne peuvent être anticipées et imaginées aujourd'hui que de manière intersectionnelle. On a inventé une chronique dans Politis d'ailleurs qui est une chronique intersectionnelle, où on a une lecture du monde qui me paraît bien plus intéressante que la seule lecture futur du monde du travail. Certes, le monde du travail, c'est important, le travail. Le travail, il nous permet sans doute de nous émanciper quand le travail est bien rémunéré et que les conditions de travail sont bonnes. Mais on ne fait pas que ça dans la vie. Donc, nos lectures, elles doivent être intersectionnelles parce qu'elles sont plurielles. Je veux dire, les rapports de domination que l'on ne voit pas, il faut les montrer. C'est le travail des sociologues que Manuel Valls attend d'écrier, d'ailleurs.
C'est la convergence des luttes.
Oui.
Et c'est ce à quoi a tenté de répondre Nuit Debout, précisément.
Absolument. C'est ça qui était formidable dans cette mobilisation, très spontanée, très anti-parti, dont Frédéric Lordon disait d'ailleurs, il a dit que c'était un succès invisible, et c'était assez juste la manière dont il avait dit ça, l'économiste Frédéric Lordon, qui était une des grandes figures de Nuit Debout, parce qu'il n'y avait pas de direction. Je veux dire, formellement, il n'y avait pas de représentants, mais comme il n'y avait pas de représentants, il n'y avait pas non plus de cap commun, il n'y avait pas d'objectif commun dans ce Nuit Debout. Donc c'est vrai que c'était des espaces.
C'est une matrice des Gilets jaunes, quelque part.
Exactement. En fait, je pense que ça a été, un succès invisible, ça a semé des graines et sans doute les Gilets jaunes ne sont pas si étrangers à ce qu'a été le début et la fin, effectivement, comme vous l'avez si bien raconté. Un peu dommage, encore un échec pour la gauche, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, on a perdu le retrait de la loi El Khomri, et derrière, plus rien ne s'est passé. Enfin, c'était encore un échec, c'est ce que vit la gauche depuis des décennies, vous l'avez rappelé, la dernière grande victoire, c'était peut-être 2005 quand le CPE a été retiré, et depuis, toutes les mobilisations n'ont abouti à rien, encore jusqu'à la dernière, avec des grandes mobilisations, avec beaucoup de gens qui se sont mobilisés dans les rues, la réforme des retraites, qui encore a été un échec.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Pierre Jacquemin, Pierre Bourdieu, le théoricien de l'habitus, ce grand sociologue, disait « Comment elle s'appelle, la femme de Hollande, Ségolène Royal? Bien pour moi, elle n'est pas de gauche. Elle a un habitus, une manière d'être, une manière de parler qui vous dit « Elle est de droite ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, par rapport à la réflexion qui a été la vôtre ?
Bah, je trouve, enfin, j'ai pas inventé la lecture que je vous ai exposée tout à l'heure sur la question des hauts fonctionnaires, et c'est vrai que on a le sentiment qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires, et c'est pas qu'un sentiment, ça se voit, c'est-à-dire que l'ENA, Emmanuel Macron a supprimé l'ENA, mais la haute fonction publique existe toujours, et donc ils sont embauchés par l'administration publique pour servir les Français, et souvent ils utilisent justement les administrations pour basculer du côté politique, pour accélérer leur carrière politique. Et quand il s'agit d'accélérer la carrière politique, il faut regarder qui est en train de diriger le pays, est-ce qu'il vaut mieux aller à gauche ou est-ce qu'il vaut mieux aller à droite. Donc c'est un peu ce que raconte Pierre Bourdieu, et à l'époque, pour François Hollande et Ségolène Royal, c'était plutôt vers la gauche qu'il fallait aller, parce qu'il fallait, c'était le bon cheval pour prendre des responsabilités. Donc oui, il y a une part de vrai dans ça, et c'est ce qui me semble aujourd'hui être la responsabilité. Enfin, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les politiques ont dépolitisé finalement un peu la politique. C'est-à-dire que tout est affaire de contraintes économiques, budgétaires. Enfin, tous ceux qui vous parlent, Emmanuel Macron, quand il nomme ses premiers ministres, les tout premiers ministres de son premier gouvernement, vous n'avez que des hauts fonctionnaires qui arrivent en chef de poste dans le ministère. Ouais. C'est quand même assez révélateur sur la manière dont la politique est pensée sur la base des seules contraintes économiques, techniques. Vous savez, l'administration, qui, quand vous lui posez une question, elle dit « Ah non, c'est pas possible. Ça, c'est sûr, c'est pas possible. »
Tout ça réduit le champ des possibles. Où est la volonté politique dans une réduction du champ des possibles ? Compliqué, hein ?
C'est compliqué, mais justement, ça doit être ça, la politique. Les politiques ont eu le courage, par le passé, de prendre des décisions extrêmement fortes, importantes, parfois y compris contre l'avis du peuple. On peut évoquer...
La peine de mort.
Exactement, la peine de mort. C'est François Mitterrand prend...
Emblématique. Hein.
Exactement, il prend une décision contre un peuple qui est absolument contre l'abolition de la peine de mort. François Hollande, même si je ne pense pas qu'on lui doive, lui, en partie, on lui doit, évidemment, il était président de la République, mais la loi sur le mariage pour tous, on ne peut pas dire que c'est lui qui l'a porté. Puis, il y a eu quand même des mobilisations, on ne peut pas dire qu'il ait tué les mobilisations de la manif pour tous. Il n'a pas été un grand orateur à ce moment-là. C'est Christiane Taubira, Dominique Bertinotti à l'époque aussi, ont porté cette loi et contre l'avis d'une partie de la population. Ils ont assumé des choix politiques. La gauche sait parfois assumer des choix politiques, sociétaux, professionnels. L'époque Jospin, il y a eu des choses considérables qui ont été faites pour le progrès des Français.
Je note au passage que l'histoire retiendra tout de même que le mariage pour tous est une œuvre de François Hollande, il était président, il l'incarne.
Vous avez raison.
Alors vous étiez dans les coulisses de la loi travail, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Myriam El Khomri a laissé entendre que ça pourrait passer par le 49-3 ? C'est quoi les discussions? C'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe?
En vrai, il n'y a pas de discussion. C'est ça qui est quand même terrible. Non, non, mais on arrive. Myriam El Khomri arrive au ministère du Travail. Elle était jusque-là secrétaire d'État chargée de la ville. Elle était plutôt d'ailleurs respectée, admirée pour le travail qui était le sien dans les quartiers populaires de France. Et elle est nommée, d'ailleurs, par deux fois François Hollande l'appelle et par deux fois elle refuse le poste parce que. Elle se sent pas, parce qu'elle voit pas le truc, et puis il finit par la convaincre qu'elle allait faire une réforme de gauche avec, à l'époque, c'était le compte personnel d'activité qui devait être la pierre angulaire de la réforme de gauche, de la dernière grande réforme du quinquennat. Donc elle finit par y aller, et elle a pour mission de construire une loi, ce qu'on fait, nous, en arrivant au ministère, de construire une loi en partenariat, enfin, en discutant avec les syndicats. Donc c'est cette première loi qui s'élabore, avec une feuille de route très claire, très à gauche, qui s'écrit. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'y compris dans la composition du cabinet, vous savez, les ministres sont entourés d'une administration, les fonctionnaires, et puis d'un cabinet, donc une équipe a priori politique. Mmh. Moi, je faisais partie de l'équipe politique. Je l'avais suivie depuis le ministère de la Ville jusqu'au ministère du Travail. Elle avait récupéré 3 ou 4 de ses collaborateurs politiques pour venir au travail. Mais dans le ministère du Travail, on lui a imposé une équipe de techno, c'est-à-dire que ce n'était pas des politiques. Et c'est eux qui font la loi travail au moment où s'établit cette réforme. Et la ministre, j'ai beau être son principal conseiller, parce que j'étais son conseiller, c'est moi qui lui faisais ces éléments de langage, donc j'étais censé être celui qui avait les premières infos, nous n'avions aucune information sur la loi qui était en train de s'écrire à Matignon, en collaboration avec Emmanuel Macron. La ministre se retrouvait elle-même bien en peine de pouvoir dire quels allaient être les éléments pour répondre aux journalistes quand la loi allait arriver sur sa table. Donc, je vous dis, il y avait le quotidien du ministère qu'il fallait bien gérer, elle faisait ses déplacements, mais sur la loi travail, il y avait y compris dans les relations qu'elle avait avec les syndicats, je me souviens, il y avait une grande concertation en octobre 2015 avec les syndicats, et jamais dans ces réunions, il était question de la loi travail. Par ailleurs, il faut avoir en tête qu'en décembre 2015, il y a les élections régionales qui arrivent. Mmh. Et donc, la gauche n'est pas en grande forme à ce moment-là, et que donc, il y a aussi le doute que si un projet de loi un peu de droite, franchement de droite, sort dans les oreilles des Français, ça risque de ne pas plaire aux électeurs pour les élections régionales. Et ce n'est pas pour rien que le rapport qui est remis à la ministre, il arrive qu'après, et la ministre en a connaissance la veille pour le lendemain de sa publication.
Ça veut dire que la principale qualité d'un ministre ou d'une ministre aujourd'hui, c'est la schizophrénie politique?
Bah, j'espère pas, mais c'est vrai que bon, là, pour
la peine... Ils sont poussés à ça, quand même.
Mais ils sont poussés à ça, et elle en particulier, c'est pour ça que je trouve que ça a été compliqué, mais elle a fait le choix de garder et de pas d'assumer. Moi, je me souviens d'ailleurs lui avoir dit, il faut aussi avoir en tête que peu de temps avant, Christiane Taubira démissionne du gouvernement pour une autre réforme qui a été proposée par François Hollande, qui était la question de la déchéance de nationalité. Christiane Taubira démissionne. Myriam El Khomri, le jour où moi je démissionne du cabinet, je lui dis, Myriam, mais... en plus, elle était contre la loi. Enfin, elle-même, elle revendiquait, enfin, en privé, je le raconte dans le livre. Elle ne comprenait pas pourquoi on faisait une loi de droite à la fin d'un quinquennat, et elle avait tout à fait raison. Et je lui dis, Myriam, si tu mets ta démission dans la balance, à 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, de l'intervalle de la démission de Christiane Taubira, elle avait un poids considérable, elle devenait une héroïne de la gauche, presque. C'est-à-dire que si elle mettait sa balance, c'était pas tenable qu'une ministre du Travail, après la grande ministre, le garde des Sceaux de Christiane Taubira qui avait démissionné, c'était pas tenable pour François Hollande de se séparer, de voir une de ses principales ministres démissionner pour une loi. Donc elle n'a pas fait ce choix-là, et voilà, c'est décevant, parce que c'est effectivement les... Moi, elle m'a accusé d'avoir été déloyale, d'avoir dénoncé cette loi, mais au final, c'est elle qui a été déloyale par rapport à ses convictions et la raison pour laquelle elle était là avec François Hollande.
Il nous reste 30 secondes pour répondre à cette question. Que retirez-vous de votre passage dans les coulisses du pouvoir? Est-ce que c'est cette fameuse technostructure, le fait que le pouvoir est plus économique que politique? C'est ça que vous retenez?
Oui, et hélas, j'ai l'impression que c'est dans toutes les sphères. Je pense que c'est tout à fait juste, et c'est encore sans doute plus vrai au Parlement européen. C'est vrai à plus petite échelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'expérience qui a été la mienne à l'Hôtel de Ville de Paris. Dans d'autres structures, des grandes organisations comme Radio France, je pense que le poids de la technostructure, le poids des hauts fonctionnaires intervient beaucoup trop dans les choix et les grandes orientations politiques de ces établissements ou de ces ministères.
Ce sera le mot de la fin, Pierre Jacquemin. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la loi El Khomri, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.